France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Jean-Paul Kaufmann.
Elsa Boublil.
Je cherche ce que je ne puis trouver.
Yvain ou le chevalier au lion. Une sonate d'église du compositeur vénitien Tommaso Albinoni pour vous accueillir, Jean-Paul Kaufmann. Vous qui avez essayé de pénétrer les églises fermées de la cité des Doges et qui nous en avez livré un récit pénétrant, mystérieux, comme ce que l'on vient d'entendre, franc et joyeux, paru aux éditions des Équateurs. Venise à double tour, dans lequel on déchiffre avec vous, les sens cachés des mots, des lieux, des façades, pour petit à petit pénétrer dans cette intimité aussi qui est la vôtre, amateur d'art et de vivre, dont la mémoire de ces 3 années de détention au Liban sourd peu à peu. Bonjour.
Bonjour.
Cette phrase que vous avez citée en préambule et qui correspond à cette atmosphère, je trouve, que l'on vient de vivre avec Albinoni, « Je cherche ce que je ne puis trouver », c'était un peu ce qui vous a guidé dans...
Oui, certainement.
Dans
oui, d'ailleurs, dans la plupart de mes livres, dans La chasse au trésor, c'est toujours la chasse qui est plus importante que la prise. Et alors aussi, on peut prolonger cette phrase, je cherche ce que je ne puis trouver, je trouve ce que je ne cherche pas. Et c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Et j'étais confronté aussi à cela dans cette quête, dans cette recherche à Venise, cette recherche des églises fermées. Il y a des lieux absolument interdits qu'on ne visite jamais. Et j'avais aucune intention de les visiter, ça n'entrait pas dans mes attributions, et puis, miracle, j'ai pu les découvrir, je pense notamment à ce jardin merveilleux, le jardin d'Éden, et qui est le plus grand jardin privé de Venise, que tout le monde veut visiter, puis moi, tout à fait par hasard, j'ai pu y pénétrer. Il y a d'autres endroits aussi, comme... Pardon ?
Allez-y.
Le palais Labia, qui est interdit à la visite depuis fort longtemps, parce qu'il appartient à la RAI, la télévision italienne, qui en jouit jalousement et égoïstement, j'allais dire, seuls quelques privilégiés peuvent le visiter. Moi, j'ai eu cette chance aussi, le hasard, la sérendipité.
Voyez. Oui, puis il y a aussi l'occasion de concerts. Je pense à un concert de Noël auquel vous avez assisté, qui vous a permis de tisser des liens inattendus et nouveaux aussi, alors que c'était pas du tout, j'imagine, au départ, votre intention.
Ben oui, les églises vénitiennes, notamment, chaque dimanche, je me rendais aux élévations musicales qui avaient lieu aux Gesuati, hein, ne pas confondre avec les Jésuiti, et il y avait une quinzaine de personnes, et c'était un moment extrêmement émouvant, loin de la foule, loin du tumulte de Venise, une espèce de lieu intact.
Nous allons vivre un voyage musical très italien, très vénitien, même aujourd'hui avec vous, Jean-Paul Kaufmann. Mais pour le moment, on va remonter à l'enfance et à ces souvenirs musicaux d'enfance qui ont marqué donc vos premières années.
La passe à marge. La passe à marge.
Lapin, lapin,
lapin, lapin,
la passe à l'âge,
lapin, lapin,
lapin, lapin,
la passe à l'âge, la passe à l'âge,
la passe à l'âge,
la passe à l'âge,
la passe à l'âge,
la passe à l'âge, la passe à
l'âge, la passe à
l'âge, la passe à l'âge. La passe à l'âge.
La passe à l'âge
fut inventée
en 1887
par un nommé
Jérémy Victor Hoptebeck,
fils de son père
et de sa mère,
neveu de son oncle et de sa tante,
et petit-fils de son grand-père,
frère de sa sœur et frère de l'aile, un marchand de beurre.
La belle histoire.
Déjà quand il était enfant, il montrait à tous les passants son curieux esprit compétent. Il inventait des appareils pour épépiner les groseilles,
des muselières pour les fourmis. Et bien qu'il fût encore petit, c'était un mec Hoptebeck.
C'était un mec, un drôle de mec, un fameux mec, et de Lubeck jusqu'à la Mecque, il n'y avait
qu'un si chouette mec, Jérémy Vic, Thor Hoptebeck.
Dante con moto.
Dans les champs près de chez son père, le linge blanc dans la brise légère semblait lui dire avec le vent,
passe à l'âge,
passe à l'âge.
Il faut ton linge fin et trop léger, une passe pour le passé,
pour le passé,
pour le passé,
le passé.
La pince à linge des quatre barbus, interprétée par les quatre barbus, extraordinaire hommage rendu à Beethoven, et qui nous conduisent tout droit à votre enfance, Jean-Paul Kaufmann, et ça vous a fait rire du début à la fin.
Ah oui, je trouve que c'est un tour de force, il y a peu de moyens quand même, ils sont quatre. Bon, et puis j'aime bien cette dérision, cette façon de mettre en boîte, si j'ose dire, cette magnifique symphonie, la symphonie du destin. Et il faut pas oublier que les paroles, c'est très important, sont de Francis Blanche et de Pierre Dac.
Ouais.
Alors évidemment, on peut dire que c'est un peu daté, mais bon, c'est... On comparait les quatre barbus au frère Jacques, mais moi, quand j'écoute la cinquième symphonie, même, vous savez, ces émissions clandestines de la BBC, hein, pendant l'occupation, pendant la guerre, avec ces quatre coups de timbales, trois brefs et un temps long, qui, en morse, s'est levé de la victoire, quand j'écoute la cinquième symphonie, je ne peux m'empêcher de c'était un mec, un drôle de mec, un fameux mec, et de Lübeck jusqu'à la Mecque, il n'y avait un si chouette mec, hein, que Jérémy Victor Hobdebeck. C'est complètement, subvertit cette symphonie totalement par les paroles de Francis Blanche et de Pierre Dac.
Et ça, c'est un souvenir de votre tendre enfance ?
Oui, des années 50. Je crois que ça date de 1955, cette chanson. Oui, bah ça correspond. Vous savez où j'étais dans ce village ?
En Ille-et-Vilaine ?
Oui, d'Ille-et-Vilaine. Bon, il n'y avait pas de disque, il n'y avait rien. Mes parents, mon père aimaient les chansons, ils sifflaient. Vous voyez, c'était aussi une époque où on sifflait. Les gens ne sifflent plus aujourd'hui. Tout le monde sifflait. Et c'est peut-être à travers les quatre barbus que j'ai approché, d'une certaine façon, la musique dite classique.
Et que faisaient vos parents à part siffler ?
Mon père était boulanger.
D'accord.
Et dans son fournil, il sifflait à longueur de journée comme un loriot. Mais lui, la musique classique, pour lui, c'était profondément ennuyeux. Et on se bagarrait quelquefois. Moi, je voulais écouter à la radio des émissions de musique classique. Et c'était un peu une sorte de rapport de force entre nous.
Ah, vous aviez envie d'écouter de la musique classique ?
Oui.
Qu'est-ce qui vous intéressait ? Qu'est-ce qui vous attirait ?
Alors, je ne sais pas si on va en parler. Il y a une émission... Alors j'ai cru longtemps que c'était une émission de France Inter. Je pense que France Inter n'existait pas à l'époque, puisque c'était avant 1963. C'était peut-être France 3 ou Paris Inter. Il y avait une émission qui s'appelait Le Dimanche Midi, la cote du disquaire. Avec Guy Erismat, d'ailleurs, je l'ai rencontré, il est décédé aujourd'hui par la suite, et il était très ému que je me rappelle de cette émission-là. Et il y avait un indicatif. Alors ça, je ne suis jamais parvenu à le retrouver. Je pense, peut-être que des auditeurs pourront nous éclairer à ce sujet, je pense que c'était peut-être tiré des danses anciennes de Respighi, mais je n'en suis pas sûr.
En tout cas, cette émission que vous écoutiez sur la radio de service public vous a mis le pied à l'étrier de la musique classique, Jean-Paul Kaufmann.
Ah oui, c'est vrai. Et puis, c'était une bagarre, encore une fois. On déjeunait, je devais imposer à toute la famille, d'abord, cet indicatif. Et puis après, les morceaux, les musiques qui avaient été choisies par les disquaires, parce qu'il y avait des disquaires encore. Heureuse époque dans ces années-là.
Lanciate forbici, rasoi e pettini, al mio comando tutto qui sta. della risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la randallera, col cavaliere, col trarara, la 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 la. Di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, solo alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro, son qua, Figaro. Qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, quanto tantissimo son come il fulmine, sono il factotum della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città, della città, della città.
Leonucci interprète cette air de Figaro du Barbier de Séville de Rossini avec l'orchestre du Théâtre de la Scala de Milan sous la direction de Riccardo Chailly. Alors là, la musique jaillit avec une aisance et une limpidité qui laisse presque pantois Jean-Paul Goffman. C'est un souvenir d'enfance également.
Oui, un souvenir de première communion, de repas, de banquet de première communion et de fin de mariage. De fin de banquet, c'était toujours le même rituel. J'avais un cousin qui vit toujours d'ailleurs, qui s'appelle André Béchu, et qui avait une voix magnifique, et qui entonnait cette air du Barbier de Séville, a cappella. Hein. Et moi, ça m'impressionnait beaucoup, enfant, et là aussi, là, je commençais à accéder à quelque chose qui était pour moi un peu mystérieux, inatteignable, mais surtout ce que je retenais peut-être c'était l'extraordinaire gaieté de cette ère-là.
Et la faconde aussi.
La faconde, la bonne humeur. Et c'est cela aussi Rossini, et c'est pas si facile que ça à obtenir avec une telle authenticité. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué, et puis bon, c'est un air qui est peut-être une scie, mais qui en tout cas m'émeut toujours.
On est dans la première communion, donc dans l'église aussi de ce village d'Ille-et-Vilaine dans lequel vous avez grandi, Jean-Paul Goffman. Cette enfance avec votre père boulanger, est-ce que vous aviez imaginé pendant l'enfance que vous seriez journaliste un jour et que vous voyageriez comme ça a été le cas quand même tout au long de votre vie?
Alors, il y avait un goût pour les livres quand même, pour la lecture. Et oui, il y avait ce monde imaginaire dans lequel je me suis réfugié, comme vraisemblablement beaucoup d'enfants. Et puis, il y a eu surtout l'expérience du pensionnat, l'expérience du collège, où j'étais très malheureux. Et
c'était votre dressage catholique, c'est ça?
Exactement. C'est ce que oui, on peut parler de dressage. Oui, c'était très sévère. Et donc, il y avait que des internes. L'air de l'extérieur parvenait assez peu. Et j'étais très malheureux. Et c'était la lecture qui me me permettait de me réfugier dans ce royaume là qui était celui des livres, et j'ai toujours eu un rapport névrotique aux livres. J'ai toujours eu peur d'en manquer, et puis un jour, malheureusement, cette hantise s'est réalisée.
J'allais en parler, c'est pendant l'enfermement.
Oui, voilà, j'ai manqué cruellement de livres, et ça a changé aussi totalement mon rapport à la lecture et au livre, et peut-être d'une certaine façon aussi à la littérature.
Et aux souvenirs ?
Les souvenirs, justement, quand je n'avais rien à lire, eh bien, je me remémorais tout ce que j'avais pu lire, tous ces romans, etc. Et finalement, cette expérience de la solitude, du silence que l'on a par la lecture, au fond, elle m'a été imposée, mais d'une façon beaucoup plus rude et malheureuse au cours de ces 3 années, ça c'est évident.
Thank you.
Magda Kalmar interprète cette aria de Il Ritorno di Tobia de Haydn avec l'orchestre d'État hongrois sous les directions de Ferenc Sekeres. Jean-Paul Kaufmann, cet oratorio de Haydn qui a été créé à Vienne en 75 est un oratorio important pour vous, je crois, par rapport à ce que l'on évoquait tout à l'heure, la captivité.
Oui, mais enfin, surtout le retour.
Le retour, c'est
ça. Parce
que
le retour, c'est, j'allais dire, une autre aventure aussi, le retour. Le retour de Toby. C'est vrai que dans cette maison des Landes que j'avais achetée et qui était en train d'être restaurée, c'est ce que j'ai raconté là dans la maison du retour, je me réparais aussi en même temps et j'écoutais cet air en boucle, ce passage « Anna m'ascolta, Anna, écoute-moi ». D'abord parce que j'aime beaucoup le livre de Toby de l'Ancien Testament, c'est un conte oriental. Et puis, comme dans tous les contes, ça vient, tous les événements viennent à point nommé. Et puis, j'aime beaucoup cette figure aussi de Raphaël. Raphaël qui est un ange qui a pris apparence humaine pour accompagner Toby dans cette expédition lointaine. Et puis, à la fin, il y a une sorte de révélation. Et Raphaël dit, bah oui, je suis Raphaël, l'un des sept anges qui se tiennent devant l'Éternel. J'aime beaucoup cette phrase-là. Donc, j'aime bien ce thème du retour. C'est pour ça que j'aime aussi l'Odyssée de Ulysse. Et c'est pas le maître des Russes que j'aime chez Ulysse, mais
c'est comment il va retourner chez lui.
Il met 20 ans pour revenir, lui. Oui. Hein, c'est quand même... Mais c'est justement son endurance, c'est sa ténacité. Et pour moi, c'est une belle figure de... Oui, je vais aller dire d'homme idéal. Ce n'est pas un dieu, hein, c'est un héros. Et il faut jamais oublier que lorsqu'il est avec la nymphe Calypso, et elle lui dit, je peux te donner l'immortalité. Il refuse l'immortalité. Mmh. Hein, il veut revenir et il veut revoir sa chère Pénélope. Mmh. Voilà, c'est très beau.
Oui, et là, dans cette ère-là, Anna Mascolta, cette voix féminine, par rapport au retour, elle correspond à quoi?
Oui, je sais pas, il y a une allégresse. Oui, il y a une gaieté et puis qui croit, qui grandit. C'est peut-être ça. Ça commence finalement. Ça va crescendo. C'est peut-être ça aussi. Et puis j'aime beaucoup cette voix de Magda Kalmar. C'est une soprano hongroise. J'ai essayé de me procurer tous les enregistrements qu'elle a pu faire. Elle a interprété Vivaldi. C'est très beau, le Beatus Vir. Et elle est toujours vivante. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
On était dans l'Ancien Testament, là, avec vous à l'instant, Jean-Paul Kaufmann. On va aller du côté de Jean-Sébastien Bach et de cette religiosité qui est la vôtre, en tout cas ce besoin, comme vous le dites dans votre récit Venise à double tour. Vous dites que dès que vous arrivez quelque part, vous avez besoin avant tout d'aller... rendre visite aux églises locales.
Oui, c'est vrai, oui. C'est une sorte d'habitude. Alors, qu'est-ce que j'essaie de retrouver? Je visite des églises qui n'ont aucun intérêt artistique, mais peut-être là, il y a dans ce monde quand même qui sent lady, ce sont des havres de silence, de paix. Puis il y a aussi l'ombre, il y a les ténèbres. Donc c'est peut-être cette qualité de silence de l'église de mon enfance dont je parle beaucoup là dans Venise à double tour, parce que je dis que cette église, elle m'a formé, elle m'a éduqué, elle m'a en quelque sorte constitué, parce que je m'y ennuyais. Hein, et puis il fallait combler par l'imagination. De ce point de vue-là, elle a joué un rôle capital dans ma formation.
Thank you.
L'Agnus Dei de la Messe en Si de Jean-Sébastien Bach, interprété par Bernarda Fink avec l'Académie für Alte Musik sous la direction de René Jacobs. Alors Bach espérait que la Messe en Si soit son but final et il avait écrit « En l'honneur du seul Dieu suprême, au prochain d'en tirer l'enseignement ». Je me disais que ça pourrait vous parler, Jean-Paul Kaufmann.
Bah oui, je me suis attaqué aux églises fermées à Venise par rapport, comme je le disais, à cette église d'Ille-et-Vilaine et puis par rapport à ce catholicisme qui ce dressage catholique qui m'a marqué à jamais et
dressage, qu'est-ce que vous entendiez par
dressage? Parce que c'est il y a quelque chose de sévère. Quand vous étiez dans ce collège, là, on vous infligeait ces messes, ces vêpres qui n'en finissaient pas, ces complis, on baignait véritablement là-dedans. Ça aurait pu me dégoûter à jamais, mais justement, c'est tout à fait le contraire. Et alors, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai ce rapport à Venise, parce que je crois que c'est un catholicisme à Venise qui s'exprime de la manière la plus... démonstrative, où tous les sens sont mis à contribution, évidemment à Venise, la vision, mais pas uniquement l'ouïe. On en parlera peut-être avec Luigi Nono, et puis les odeurs aussi, le rapport, c'est cela aussi, le catholicisme, c'est aussi un rapport à l'image, au visible et au spectacle.
Et à l'invisible.
Et à l'invisible. Et puis, il y a aussi cette dialectique de la loi et du désir. Et puis, il y a aussi la transgression et cette croyance aussi que... moi, je trouve ça aussi assez rassurant, que la faute est partout. Et puis, que quiconque commet une faute sait qu'il sera accueilli à bras ouverts et reconnu en tant que pécheur. Et justement, c'est ce que dit saint Paul, il dit que le vrai péché, eh bien, c'est de se croire pur, c'est de se croire sans faute, c'est de se croire infaillible. Je crois qu'il a tout à fait raison. Donc, une religion là qui magnifie aussi les corps. Alors, quelquefois, qui les magnifie et qui les nie aussi. Il y a des périodes où le corps... C'est pour ça que Lacan, dont je suis aussi la trace dans ce livre, a parlé de l'obscénité des églises vénitiennes. Il dit tous ces corps exposés, tous ces corps exhibés, tous ces corps nus, etc. Il y a en effet quelque chose d'obscène.
Et dans le cas de Bach, justement, on est... dans tout sauf dans l'exhibition.
Il est luthérien, Bach. Il n'est pas catholique.
Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous faites clairement la différence. Et bien sûr, c'est normal. Vous parliez de Louis et de Luigi Nono. Je propose qu'on écoute un extrait de l'O Fragment de Prometeo.
Thank you.
un extrait du fragment de Prométhée de Luigi Nono par le chœur de Fribourg sous la direction d'André Richard. Et ça nous permet de revenir à votre récit, Jean-Paul Kaufmann, Venise à double tour. Vous parlez de Luigi Nono et même vous le citez. Il était obsédé donc par le son qui puisse rester de San Lorenzo et il dit « Si l'église doit disparaître, qu'au moins on puisse conserver son identité acoustique ». C'est un compositeur que vous avez découvert au cours de ce voyage ou que vous connaissiez?
Oui, je le connaissais un peu avant. Bon, je savais qu'il était originaire de Venise, mais il se trouve en plus de cela que parmi les églises fermées, il y a l'église San Lorenzo. Alors, San Lorenzo est une église extrêmement intéressante à Venise. C'est une église qui est fermée depuis, je sais pas, une trentaine d'années et a eu lieu en 1984, véritablement, un des grands événements musicaux, on peut le dire, du XXe siècle, la première de Prométhée. Et c'était pas rien, c'était Claudio Abbado qui dirigeait l'orchestre, celui qui avait conçu la nacelle, c'était Renzo Piano. Et puis, il y avait aussi une autre personne qui avait fait les décors, Emilio Vedova, qui est peut-être moins connu, mais qui est une figure très importante en Italie. Et c'était 400 privilégiés, là, ils avaient vraiment l'impression de vivre quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que c'est pas un hasard que Nono soit originaire de Venise. Il habitait d'ailleurs où j'habitais, à la Giudecca. Et c'est vrai qu'il y a une qualité des sons, enfin tout à fait particulière à Venise, la réverbération, l'eau des canaux, toutes ces résonances qu'il a su utiliser. Et puis, c'est de Monjabès, il dit Luigi Nono a fait parler le silence. C'est quand même, il faut le faire, parler le silence. Mais en tout cas, ce que voulait Nono, c'est réveiller l'écoute. Il trouvait que nous avions de vieilles habitudes et qu'il fallait briser ces vieilles habitudes de l'écoute standardisée. Et je crois qu'il disait une chose particulièrement importante. Il dit « L'Occident a privilégié la vue et l'image au détriment de l'ouïe ». Et c'est ça qu'il veut mettre en avant, lui.
Et on a l'impression, en vous lisant dans Venise à double tour, paru aux éditions Les Équateurs, on a l'impression, Jean-Paul Kaufmann, que en étant à Venise, vous recontactez votre silence intérieur. Ce silence, ce que pudiquement vous ne dites pas, ou en tout cas que vous ne dévoilez que par bribes, on a l'impression que ça vous fait replonger dans ce silence que vous avez connu pendant votre détention.
Oui, alors c'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais en même temps, les églises fermées, je ne suis pas à l'intérieur, hein, je ne cherche pas comme un prisonnier à m'échapper de ces églises fermées. Alors, le prisonnier, en effet, quand il n'est pas enchaîné, eh ben, il regarde à travers le trou de la serrure pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais moi, j'étais à Venise un homme libre et je me faisais ouvrir les portes, et cette nuance est d'importance, je me faisais ouvrir les portes de l'extérieur, hein, et elle s'ouvrait et je recevais en pleine figure l'obscurité, l'odeur et le silence, comme un effet véritablement balistique, hein, comme un projectile que vous recevez à la figure, une force brutale qui se libère.
De l'extérieur vers l'intérieur, comme un visiteur de sa propre histoire qui serait ressorti, non ?
Oui, bah oui, oui, vous avez tout à fait raison.
l'Adagio du concerto en sol mineur des quatre saisons de Vivaldi, interprété par l'orchestre baroque de Venise avec Giuliano Carmignola en violon solo sous la direction d'Andrea Marcone. Alors, bien sûr, on ne pouvait pas échapper à Vivaldi et aux quatre saisons, Jean-Paul Kaufmann, parce que vous en parlez avec beaucoup d'humour. Dans ce Venise à double tour, où on a la chance de vous suivre dans une Venise inconnue, il y a aussi l'autre versant de Venise, qui est la Venise touristique.
Ah oui, qui est une caricature. Tout le mauvais goût de la planète s'est rassemblé dans cette ville. Et oui, Venise, c'est aussi la ville de l'inauthentique, la ville du toc, hein, du simili. Et malgré tout, c'est ça qui est le miracle, eh bien, sa beauté n'en est pas ternie pour autant. Et je dirais même que ce Disneyland rehausse cette beauté de Venise. Alors, c'est vrai, on peut, il y a les quatre saisons de Vivaldi qui sont jouées tous les soirs par des orchestres dans les églises vénitiennes. C'est véritablement une scie. C'est très beau, les quatre saisons, mais c'est joué ad nauseam et on finit par ne plus
mettre de sens.
Ça disparaît. Alors que c'est un musicien, un compositeur que j'aime beaucoup. Puis il n'y a pas que les quatre saisons, tous ces airs, toute cette musique religieuse, Judith triomphante, c'est magnifique. Et puis Venise aussi est liée à ses églises. Il est lié un petit peu aux Itellé, qui est une église à moitié ouverte, à moitié fermée, et à la Pietà aussi. Parce que un certain nombre de ces églises fermées aussi, c'est des salons où on jouait la musique et on y venait comme au concert. Je pense notamment à une église dont je parle dans ce livre, très belle église, San Lazzaro dei Medicanti, qui se trouve dans l'hôpital de Venise, la Scuola di San Marco. Eh bien, c'était une église au XVIIIe siècle très réputée pour les chœurs, toutes ces jeunes filles qui chantaient. On venait de toute l'Europe pour les entendre.
Mais quelle est donc cette quête d'aller visiter les églises fermées
Les églises fermées ne ressemblent absolument pas aux églises ouvertes. Les églises ouvertes, vous voyez, ce sont des églises où tout est offert, tout est exhibé, c'est lumineux, c'est luxueux, alors que le fait que ces églises soient fermées, ça change tout. Parce que d'abord, vous avez une intériorité secrète, vous avez une qualité de silence que vous ne retrouvez absolument pas dans les églises ouvertes. Et puis, il y a quelque chose d'intact. Moi, je pense que quand même, quand vous faites ouvrir la première église qui est fermée depuis X années, c'est quand même un moment prodigieux, parce que vous avez c'est un moment de suspense, hein. Vous avez les deux battants qui font s'ouvrir, là ça grince, et puis comme je le disais tout à l'heure, là vous recevez l'intérieur en pleine figure, hein, comme si c'était compressé, comme si quelque chose avait été comprimé pendant des années, et puis ça vous coupe le souffle, et en même temps ces lieux-là, vous les faites revivre pendant la durée de votre visite, et il y a une sorte de résurrection qui se produit, et ça c'est quand même un moment absolument exceptionnel.
Oh.
te.
Ma colpa di vil cuore, accorto mai sarò.
De Don Giovanni de Mozart, le fameux acte 2, scène 15 à Cenarteco, dans l'interprétation de la bande originale du film de Joseph Losey. Ça vous renvoie à quel moment de votre vie, Jean-Paul Kaufmann ?
Quand j'étais journaliste au Matin de Paris, j'ai eu le privilège, lors de la sortie du film Don Giovanni, d'interviewer Joseph Losey. C'est un souvenir qui m'est cher. Et puis, à Venise, il y a un lieu qui me rappelle ce mausolée où se trouve le commandeur. C'est l'église Santa Maria de la Misericordia, qui est une église très étrange, blanche, mais d'un blanc, j'allais dire, funèbre. Et il y a quelque chose de maléfique dans cette église. Elle est fermée. Alors, j'ai réussi à entrer à l'intérieur et on éprouve une sorte de malaise dans cette église, quelque chose, encore une fois, de maléfique. Et pour moi, ça ressemble en effet au mausolée où se tient le commandeur et où va dîner, en effet, Don Giovanni. Mais j'aime bien cette figure de Don Juan, l'homme qui va jusqu'au bout, qui dit non, hein, commandeur, repends-toi, repends-toi. Il dit non, voilà, il est... Ça, c'est, je trouve ça magnifique.
Et puis, qui est élégant et désinvolte.
Oui.
Vous, vous évoquez à Venise aussi ce, en Italie, ce terme que vous n'arrivez pas à traduire, qui s'appelle la sprezzatura.
Ah, la sprezzatura, oui, c'est un terme qui a été inventé là par Castiglione dans le livre du courtisan. C'est intraduisible, très difficile, mais justement, c'est ce qui fait l'intérêt de ce mot-là. Ça veut dire, bon, une forme d'élégance, de nonchalance, mais en même temps, très étudiée, où il y a du travail, mais il faut absolument pas que le travail et le labeur, et la difficulté, l'effort apparaissent. C'est ça.
C'est un peu le cas de Don Giovanni, non ?
Oui, de Don Giovanni, puis et puis aussi de Venise aussi, parce que Venise est constituée sur des dos sableux, sur des îlots, etc. Et ben, on ne sent absolument pas. Il faut faire oublier cette origine qui a été très dure, très laborieuse, et on peut parler en effet de sprezzatura vénitienne.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Jean-Paul Kaufmann, vous êtes notre invité jusqu'à midi et demi sur France Musique. Et j'avais envie de poursuivre dans cette thématique de Don Giovanni avec cette faute et cette culpabilité. Vous dites que cet équilibre permanent du péché et de la grâce vous a probablement sauvé.
Oui, enfin, sauvé, non. Enfin, je ne sais pas si je dis exactement cela, mais en tout cas, le péché et la grâce, oui, c'est cette dialectique-là, elle est toujours présente en moi. J'ai consacré un livre, justement, à la grâce, remonter la Marne. Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce qui subsiste dans un pays comme le nôtre? Est-ce qu'il y a encore la grâce? Et j'ai fait ce voyage, remonter un cours d'eau, justement, pour voir s'il y avait encore cette grâce qui subsistait dans ces paysages qui nous étaient donnés.
Et aussi, peut-être, le côté bon vivant qui est resté très fort.
Nous en parlons peut-être.
Ouais. Dans cette ville toute pleine, un plaisir de joie et d'amour. Dans cette ville souveraine, je ne ferai qu'un court séjour. J'y resterai 3 mois peut-être. Or 3 mois, c'est bien peu, je crois. Bien peu quand on veut tout connaître. Aussi je veux dans ces 3 mois. Je veux m'en foutre et courir jusque-là. Je veux m'en foutre et courir jusque-là. Portez la lettre, mettez-la. Je veux m'en foutre et courir jusque-là. Je veux m'en foutre et courir jusque-là. Je veux m'en foutre et courir jusque-là. Portez la lettre, mettez-la. Je veux m'en foutre et courir jusque-là. Un gentilhomme austère, très ma jeunesse avec rigueur. Il ne comprenait rien, mon père, aux exigences de mon cœur. J'ai dû garder ma robe blanche jusqu'à mon mariage, mais je prétends prendre ma revanche. C'est le moment ou bien jamais. Je m'en foutrai, pourrai jusque-là. Je m'en foutre et courir jusque-là. Portez la lettre, mettez-la. Je veux m'en foutre et courir jusque-là. Je veux m'en foutre et courir jusque-là. Je veux m'en foutre et courir jusque-là. Portez la lettre, mettez-la. Je veux m'en foutre et courir jusque-là.
Un extrait de la vie parisienne d'Offenbach avec l'orchestre et le chœur du Capitole de Toulouse et la direction de Michel Plasson. Ça fait partie des œuvres musicales que vous aimez écouter, qui vous renvoient aussi, Jean-Paul Kaufmann, à votre nécessité de profiter de la vie.
Oui, de profiter de la vie, mais enfin, je veux m'en fourrer jusque-là. Ça ne correspond pas tout à fait, disons, à mon éthique gastronomique. Ça serait même un peu le contraire. Mais j'aime bien ce côté transgressif. Et puis, là encore, peut-être cet air qui est parcouru par cette bonne humeur, cette alacrité, ça me plaît bien. Mais bon, moi, je suis absolument pas dans l'excès, ce serait plutôt dans la dans la mesure, mais j'aime bien, il y a un côté provocateur qui m'est tout à fait sympathique.
Et puis ça nous renvoie aussi à Venise avec ce que vous appelez les mangeoires à touristes.
Ah bah c'est
pour s'en foutre jusque là.
Bah oui, on peut les appeler des mangeoires parce que c'est très décevant la gastronomie vénitienne. J'y consacre quelques page, et elle n'est absolument pas à la hauteur de la ville, de cette beauté qu'on reçoit de partout. Ils n'ont pas besoin de se fouler, les restaurateurs à Venise. Il y a 30 millions de touristes par an. Même si on fait aucun effort, il y aura toujours du monde. Et les Italiens, quand même, ont ce site particulier, c'est que ils savent que le premier plat, c'est l'accueil. Il doit être succulent. Et ça y sert. Et ils sont extrêmement, il y a peut-être une part de comédie, mais c'est tellement agréable. Donc, j'aime m'y laisser prendre.
Blandine Verlet interprète les barricades mystérieuses de François Couperin. Voilà une œuvre qui nous emmène presque au cœur de vous, Jean-Paul Kaufmann. Un titre aussi mystérieux peut-être que votre recherche, on a l'impression, cette recherche dans Venise à double tour, qui est une recherche, finalement, c'est pas ça qui nous intéresse dans ce Venise à double tour.
Oui, au fond, ce livre-là aurait pu s'appeler « Les barricades mystérieuses
oui. ».
Hein, c'est vrai que ce titre est énigmatique. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, ce qui m'a intéressé dans, évidemment, c'est, je dis que c'est peut-être un MacGuffin, ces églises fermées. Hein, vous savez, ceux qui aiment Alfred Hitchcock savent que le MacGuffin, c'est le prétexte, c'est la raison officielle, c'est le héros qui a dans sa mallette des plans secrets, etc. Puis les méchants vont essayer de se le procurer. Mais finalement, on s'en fiche.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est
vous
intéresse,
suivre. C'est la poursuite.
Ouais, c'est
il va être tué, on a peur pour lui. Et quelque part, oui, c'est vrai que c'est un peu un prétexte. Mais malgré tout, il y avait quand même quelque chose une présence secrète là que je recherchais, que j'essayais de de découvrir dans ces églises fermées. Et comme je le disais tout à l'heure, une église ouverte est très, alors c'est peut-être une la palissade, une église ouverte à Venise est très différente d'une église fermée. Tout est là.
Finalement, on retrouve là le journaliste.
Oui, qui aime les choses prohibées ou interdites, peut-être.
L'allemande de la suite numéro 5 en mi majeur de Handel, interprétée par Anne Kefelek, une suite appelée la suite de l'harmonieux forgeron. Alors forcément, Jean-Paul Kaufmann, j'ai envie de vous dire, on a l'impression que vous aimez aussi, ou avant tout, ou à égalité, les titres que la musique que vous écoutez.
Non, il ne faut quand même pas exagérer. Mais j'aime bien les titres un peu énigmatiques. Pourquoi l'harmonieux forgeron ? Alors, je ne sais pas, c'est peut-être le bruit du marteau sur l'enclume, je ne sais pas. Mais il paraît que ce titre a été donné bien après Handel, et c'est absolument pas le titre qu'en avait donné le compositeur. Non, il faut quand même pas, non, faut pas exagérer quand même. Ouais, il faut quand même que ça, le morceau soit à la hauteur du titre, comme, non?
Quand vous étiez à Venise, pour terminer, est-ce que vous avez écouté des musiques adaptées à la situation? D'ailleurs, à quel moment écoutez-vous de la musique, Jean-Paul Kaufmann, si vous en écoutez? Est-ce que c'est en travaillant, avant de travailler, après?
Ah non, absolument pas. Je peux pas faire, on peut pas faire, enfin, je peux pas faire deux choses à la fois. Non, j'écoute le matin, après mon petit déjeuner, oui, bah, j'écoute France Musique, hein.
C'est une belle idée.
Oui, non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Et, à Venise, bien, bon, en effet, il y a beaucoup d'églises, surtout le dimanche, où on donne un certain nombre de concerts. San Trovaso, qui est intéressant, il y a un orgue, les Gesuati aussi. Il y avait aux Gesuati, on y allait chaque dimanche, et le prêtre, le curé, avait une voix absolument extraordinaire. Maintenant, il n'est plus là. Don Raffaele, j'en parle dans le livre. Et alors, il avait une voix magnifique, et bon, il y avait une quinzaine de personnes, des vieilles femmes, j'étais là, et il essayait de donner du répondant, d'insuffler son énergie, mais bon, ça...
Ça suivait pas forcément.
Ça suivait pas, sauf une femme là qui lui répondait avec une voix, et ça a été un moment qui a été très bouleversant pour moi. Une femme qui essayait de lui tenir en quelque sorte la dragée haute, une sorte de duo, et c'était très beau.
Une autre femme avec laquelle nous allons terminer cette émission, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Meyer, l'interprète, la pianiste.
Ah bah, j'ai l'intégrale de Marcel Meyer. Moi, j'aime beaucoup cet interprète disparu, je crois, en 1958. Et bon, elle a interprété Couperin, elle a interprété Scarlatti. Et puis, c'était quand même une figure musicale très importante. Hein. Elle était l'amie du groupe des Six. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a eu un tableau de Jacques-Émile Blanche qui la représente au milieu de ce groupe des Six. Alors, bon, moi, je serais un peu en peine de définir son style, mais je crois que c'est un mélange de, disons, de rigueur et de fluidité. C'est ça, Marcel Meyer.
Ben, la voici pour terminer cette émission. Un grand merci à vous, Jean-Paul Kaufmann. Je rappelle que Venise à double tour a paru aux éditions Les Équateurs, et que c'est absolument... c'est une enquête. On pénètre avec vous là où personne n'a le loisir de pénétrer. Merci beaucoup, Jean-Paul Kaufmann.
Merci. Thank you.
Marcel Meyer interprétant Ravel pour terminer cette émission en compagnie de Jean-Paul Kaufmann, qui était donc l'invité de Musique et moi. C'était Manu Couturier à la prise de son ce matin, Sophie Pichon à la réalisation, attachée de production Marie Ferdinand. Je vous souhaite un très beau dimanche à l'écoute de France Musique. Si vous souhaitez retrouver les informations concernant cette émission, vous pouvez aller sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. On se retrouve dimanche prochain, 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.